Bonjour, bienvenue à cette émission de conférence pectorale. Aujourd'hui, le pasteur Jean-Marc Brochu enseignera la deuxième partie sur l'héroïsme des Maccabées. Cette dynastie juive, dont l'histoire s'est déroulée durant la période intertestamentaire. Alors, bonne écoute.
Alors, pour certains, l'époque qui sépare les deux testaments n'a pas d'importance parce que, dit-on, les prophètes de Dieu ne se sont pas révélés. C'est pourquoi cette époque fut appelée les siècles du silence, la période du silence. Mais nous pouvons apprécier d'avoir des écrits de cet arrière-plan avant la naissance de Christ, comme j'ai dit un peu plus tôt. Les livres de Maccabée, avec le canon de l'Ancien Testament, les Juifs reconnaissent 93 livres canoniques. Ces écrits furent acceptés comme tels par l'Église primitive et l'Église protestante de la Réforme. C'est l'Église catholique qui a introduit donc des apocryphes dans sa Bible, des livres non canoniques qu'on dit là. Les livres historiques de 1 et 2 Maccabées en font partie. Les Juifs divisèrent leurs écrits, eux, en 22 livres. Au 2e siècle, avant Jésus-Christ, le Ketubim, massorétique, donc les écrits des massorètes, des scribes massorètes, qui correspond aux livres écrits par ceux qui ont servi les prophètes. Ceci peut concorder, entre autres, avec premier Maccabée qui a été écrit dans ce temps aussi, dit-on. Alors, ce livre cite Daniel, par exemple, dans premier Maccabée 2, versets 57 à 60, et les psaumes, premier Maccabée 7, 17. Alors, ce livre a une apparence canonique d'après Archer. Flavius Joseph est écrivain du 1er siècle. Il cite les 22 livres inspirés et canoniques des Juifs. Il parle aussi d'apocryphes, justement comme un Maccabée, le premier livre des Maccabées, qu'il n'inclut pas dans les 22 livres des Juifs. Alors, comme M. Archer, M. Halley, un autre historien commentateur biblique, confirme aussi que le premier Maccabée a d'une grande valeur, deux Maccabées qui se limitent à la période du 2e siècle, de 175 à 161 avant Jésus-Christ, est inférieur. Bon, lui, c'est ce qu'il dit. Il semble y avoir un inversement ici. En tout cas, les Septante au 3e siècle avant Jésus-Christ joignirent deux Maccabées avec d'autres apocryphes à leur Bible grecque. Donc, c'était dans cette version-là aussi. Il y aurait ici un calcul de la date, ou parfois de certaines dates là, à vérifier. En deux Maccabées, on trouve une incohérence biblique, comme la prière pour les morts. Bon, il a aussi... J'avais dit dans le premier livre, mais il semble qu'il y en a aussi dans le deuxième livre des Maccabées. Prière pour les morts, de Maccabées, vous avez la référence. Et la vision de Jérémie qui prie pour son peuple. Dans le deuxième livre, chapitre 15, verset, tout est là. Nous entrons maintenant dans l'histoire de cette révolte des livres des Maccabées. Qu'est-ce qu'ils ont accompli? Troisième partie, qu'est-ce qu'ils ont accompli? C'est entraîné par de mauvais conseils qu'Antiochus Épiphane, celui qui a souillé le temple là, avec tout ce qu'il a fait auparavant, a voulu effacer les caractères distinctifs religieux des Juifs. La conquête des Romains lui a rendu la Judée, frontière sud-ouest, son royaume propice stratégiquement, mais l'atteinte aux Juifs était fatale. S'il y avait des héros en Israël, ils se devaient d'intervenir. Les Maccabées devinrent ces intervenants héroïques. C'est pour ça que j'ai intitulé cet enseignement-là, justement, l'héroïsme des Maccabées. Vraiment, c'est des gens qui étaient vaillants, qui étaient des combattants, qui étaient stratégiques et qui ont remporté beaucoup de victoires. Ça commence avec Mattathias, tantôt on avait nommé chaque nom avec les dates correspondant à chacun. Ce fut le premier, qui est sacrificateur d'un patriotisme fervent, qui soulève la révolte avec des fidèles et ses cinq fils, par la suite, ont pris la relève de Mattathias. Alors, nous parlons de courage de la part des Maccabées. C'est important de s'y arrêter parce que vous allez voir aussi leur foi et leur confiance en Dieu et comment Dieu est intervenu certainement avec des grandes victoires. Alors, l'ordre du roi de bannir les sacrifices, le roi impie, là, les sacrifices du sanctuaire, profaner les fêtes, les sabbats, servir les idoles avec des sacrifices d'animaux impurs, de ne pas se faire circoncire. Il contredisait tout ce que la loi de Dieu ordonnait. Lui, ce roi impie-là, contredisait toutes ces choses-là. Alors, plutôt que d'obéir à un roi impie et de se souiller, bien, eux, ils ont voulu faire le contraire, Mattathias et ceux qui étaient avec lui. Alors, ils provenaient du bourg de Modine. Au moment d'une offrande, en fait, là, il a tué ceux qui officiaient cette cérémonie profane. Et après cela, il s'est enfui avec ses fils dans les montagnes. Mattathias était déjà un vieillard âgé lorsqu'il posait ce geste-là. La redédicace par Antiochus du temple de Jérusalem au dieu Zeus olympien se traduisait par les Juifs comme l'abomination de la désolation. Le Zeus olympien, c'était la divinité grecque suprême. Parmi les dieux de la Grèce, 12 surpassent les autres, et ce sont les Olympiens, parce que leur résidence est sur la montagne Olympe de Thessalie. Cette montagne couverte de nuages forme un genre de jonction entre le ciel et la terre. Certains Juifs ont mélangé leur religion avec l'hellénisation, l'hellénisme. Par exemple, le nom oriental de Zeus, Zabadios, fut identifié avec Yahweh, le nom du Dieu des Juifs, du Dieu d'Israël, et son autre nom hébreu, Sabaoth, qui signifie le Seigneur des armées, ou prononcé Shabaoth ou Sabaoth, en tout cas. Cela n'était pas nouveau et lieu dans toute l'histoire d'Israël, ces mélanges avec d'autres divinités païennes, mentionnant seulement l'identification de Yahweh avec Baal, par exemple, une divinité étrangère très connue et très citée dans la Bible. Contrairement à Mattathias et ses fils, il y a eu des traîtres, malheureusement, en Israël. Ménélas fut l'un d'eux. Il fut guide pour conduire Antiochus dans le sanctuaire. Ce dernier prit des vases sacrés, c'est écrit dans 2 Maccabées. Il prit aussi du temple tous les accessoires d'or et d'argent, tout ce qui était précieux, vers 169 avant Jésus-Christ. Les pharisiens, pour parler d'eux, bien, c'est quelque temps avant ces outrages d'Antiochus que la secte des pharisiens est née. Les Grecs précurseurs d'Antiochus tendaient déjà à l'hellénisation des Juifs. Au 3e siècle, un peu avant les guerres des Maccabées, les pharisiens ont surgi en réaction pour garder une intégrité nationale et religieuse. Ils deviendront plus tard des légalistes hypocrites, imbus de leur propre justice. Vous avez la référence, et c'est Jésus qui parle d'eux assez carrément dans ce texte-là de Matthieu. Au chapitre 23, les Sadducéens, un autre groupement religieux, bien, se sont formés aussi à la même époque. Différents des pharisiens, ils étaient motivés par des considérations séculières et adoptaient plus facilement les coutumes grecques. Alors, ils se tinrent à l'extérieur de la révolte maccabée. Bien qu'ayant des fonctions religieuses, ils étaient plutôt irreligieux. Ils avaient de l'influence par leur richesse et plus tard, ils ont dominé le Sanhédrin de manière rationaliste. Le livre de Daniel fait voir aux Juifs Antiochus comme étant la petite corne. Après le livre, cette petite corne, la victoire allait revenir aux Juifs. Ce qui nourrit la conviction des Hassidim. Une hypothèse veut qu'ils composèrent le Hallel tiré des psaumes 113 à 118 pour la célébration de la victoire hasmonéenne. Le mot Hassidim, les Hassidiques, on parle des Juifs Hassidiques, bien, signifie les séparatistes. Il rejoint le mot pharisien. Ces derniers se seraient démarqués des Hassidiques, des Hassidim. En effet, les Hassidim qui s'étaient joints à Judas Maccabée au début de la révolte, bien, l'ont abandonné plus tard en voyant la liberté religieuse assurée. Alors ensuite, il va y avoir Judas Maccabée. Les Hassidiques avaient fait comprendre à leurs compatriotes qu'il fallait plus qu'une résistance passive pour sauvegarder la nation. Alors au début de la révolte, Judas eut leur aide. Lui qui succéda donc à Mattathias fut excellent pour mener les guérillas. Les armées du roi furent déroutées par ses tactiques. Le roi lui proposa même la paix parce qu'il n'arrivait pas à le vaincre. C'est Judas qui obtint la permission de pratiquer à nouveau la religion de leur père. Il faut dire que le roi tenait à ce côté de la frontière égyptienne. Judas fut revêtu d'une autorité civile et religieuse et il a inauguré en quelque sorte la lignée des prêtres rois hasmonéens. Maccabéens, si vous voulez, qui, pendant un siècle, ont régi la Judée, indépendante. Alors ainsi, au début de la révolte, Judas eut de l'aide. Mattathias, sur son lit de mort, avait suggéré le choix comme chef militaire de ce fils Judas. De grandes armées bien équipées ne pouvaient combattre Judas dans les collines, parce que justement, c'était des endroits où ils pouvaient bien se cacher. La révolte maccabéenne a pris des proportions pratiques importantes. Après la mort d'Antiochus, Judas a fait passer plusieurs autres incursions en fait, dans la Palestine. Les récits témoignent de la foi de Judas Maccabée. Avant d'aller au combat contre des armées plus puissantes, souvent c'était le cas, et plus nombreuses que les hommes qu'il avait avec lui et le nombre de personnes, bien, il les encourageait par des témoignages de la puissance et du secours de Dieu. Le Seigneur l'a honoré, un peu comme Josué et son armée. Le Seigneur l'a fait craindre même des nations environnantes. Il avait fait grossir son armée par le recrutement de plusieurs de ses frères de sa race, alors qu'il s'infiltrait secrètement dans plusieurs villages avec des compagnons pour solliciter son peuple au combat. Ce héros devait avoir une fin. Il périt dans un combat vers 161 avant Jésus-Christ. Il avait vaincu successivement 5 généraux syriens, en plus de battre bien d'autres armées, en plusieurs combats. Ensuite, il y a eu Jonathan, son frère, fut un successeur au moment où Démétrius et Alexandre Bola se contestaient le trône de la Syrie. Alors ce dernier voulait que Jonathan, qui était déjà chef rebelle, il lui proposait la reconnaissance de souverain sacrificateur sur le peuple et le poste de gouverneur de Judée. Jonathan a accepté et il éleva des remparts de Jérusalem par un marchandage avisé à annexer Écron et son territoire, et avec d'autres localités de la côte et 3 districts de Samarie. Alors, de plus, il eut l'important port de Jaffa et Gaza pour la surveillance du sud-ouest. Nous devons retenir qu'à part les stratèges politiques de Jonathan, sa nomination de grand prêtre avait prévalu sur la lignée de la famille d'Aaron, qui avait exercé ce rôle pour environ 13 siècles. La lâcheté leur a en quelque sorte enlevé le titre pour le prêter à Jonathan. Ensuite, il y a eu donc Simon. Simon a succédé et il fut tué par un prétendant au trône des Séleucides. Il a continué donc à conquérir une indépendance pour les Juifs. Et il y a eu Démétrius II en 142 qui accorde un rescrit qui libère de l'obligation du tribut. Simon conquit les dernières places fortes des Séleucides à Gézère et Jérusalem. Il fut récompensé en étant nommé ethnarque.
Bien chers auditeurs, c'est déjà la fin de l'émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre enseignement du pasteur Jean-Marc Beauchu. Pour info, vous pouvez consulter notre site Internet à cette adresse www.conférencespectorale.org. Vous pouvez également voir notre local d'exposition de nos maquettes à l'adresse arcexposition.wordpress.com. Vous pouvez joindre Jean-Marc à l'adresse courriel pectoralia@gmail.com. À bientôt!